Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
I have a dream.
It's one small step for man.
Puis l'Amérique qui est maintenant multiculturelle, multiforme.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver dans le cadre de l'Amérique et vous, édition de ce vendredi 9 juin 2023. Vous êtes sur VO Afrique. Nous émettons depuis Washington DC, ici même aux États-Unis. Et ce soir, nous parlons de la présidentielle de 2024, candidature, enjeux et perspectives. L'ancien vice-président Mike Pence s'est lancé cette semaine dans la course à la présidentielle de 2024 ici aux États-Unis. Il a officialisé sa candidature le jour même de ses 64 ans par un meeting à Des Moines dans l'Iowa où il a assuré que le choix pour 2024 était celui entre la Constitution et un Donald Trump qu'il qualifie d'irresponsable. La candidature de Mike Pence vient s'ajouter à une liste de candidats républicains qui continue de s'allonger et qui compte déjà une dizaine de candidatures. Parmi elles, celle de Donald Trump, battue lors de la présidentielle de 2020 par Joe Biden et qui vient d'être inculpée par la justice fédérale américaine pour sa gestion des archives de la Maison-Blanche. Chris Christie, ancien gouverneur du New Jersey et ancien allié de Donald Trump, devenu l'un de ses plus virulents détracteurs, est aussi dans la course de même que Ron DeSantis, gouverneur de Floride. On sait aussi, côté démocrate, que Joe Biden est candidat à sa propre réélection et que d'autres noms se sont aussi déjà signalés. Présidentielle 2024, candidat en jeu et perspective, voilà qui constitue donc l'ossature de l'Amérique et vous de ce vendredi. Et pour nous accompagner dans l'émission de ce soir, nous avons comme invité Jean-Claude Nzamba, analyste politique. Vous êtes basé à Atlanta, en Géorgie. Jean-Claude, bonsoir.
Bonsoir.
C'est un plaisir de vous avoir parmi nous dans l'état du New Jersey, Daniel Mengara. Vous êtes analyste politique et vous êtes aussi professeur. Bonsoir et bienvenue.
Bonsoir, cher ami. Merci pour l'invitation.
Jean-François Seznec est également avec nous ce soir. Vous êtes à la fois enseignant, politologue, économiste et directeur de Lafayette Group. Plusieurs de nos auditeurs nous disent beaucoup de bien de vous. Nous pensons la même chose. Jean-François Seznec, bonsoir.
Merci beaucoup, bonsoir, vous êtes trop gentil.
Alors, pas plus que nos auditeurs qui vous écoutent et qui vont vous écouter. Alors, on commence justement par vous, Jean-François. Commençons par cette actualité qui concerne Donald Trump. L'ancien président républicain vient d'être inculpé par la justice américaine pour sa gestion des archives de la Maison-Blanche. Un commentaire déjà sur cette inculpation et qu'est-ce que ça signifie pour sa course, n'est-ce pas, à la présidence de 2024?
Mais écoutez, je ne pense pas que ça ait une grosse importance sur sa nomination, c'est-à-dire nomination potentielle par les Républicains, parce qu'en fait, ça ne fait que renforcer sa base qui dit que c'est vraiment une affaire entièrement politique et il présente Donald Trump comme étant un pauvre martyr, si vous voulez, de la dictature démocrate presque. Donc ça va l'avantager plutôt qu'autre chose, mais d'un autre côté, ça va le désavantager pour l'élection nationale, parce que les indépendants sont peut-être très, très déçus par Donald Trump et pourraient mettre leur vote d'ailleurs. Donc je pense que beaucoup des candidats du côté républicain vont dire que Donald Trump n'est pas éligible. Et par conséquent, il va falloir voter pour eux à la primaire.
Daniel Mengara, malgré ces démêlés avec la justice, Donald Trump bénéficie, et Jean-François semblait le dire tout à l'heure, toujours d'une grande cote de popularité. Est-ce que vous pensez que les autres candidats qui se sont déjà lancés dans la course peuvent récupérer ses voix effectivement? Et je pense notamment à l'ancien vice-président Mike Pence, qui vient lui aussi de se lancer dans la course.
Oui, la question est intéressante parce que on peut déjà supposer que dans le cadre de la primaire républicaine, Donald Trump est comme un cadeau empoisonné. C'est-à-dire que autant il reste populaire avec la base et autant il est probable qu'il puisse remporter les primaires donc républicaines, autant il n'a aucune chance, à mon avis, lors de l'élection générale. Parce qu'à ce niveau-là, il ne faut pas oublier la raison pour laquelle il a perdu donc contre Biden, c'est qu'une bonne base des républicains et des indépendants l'avait lâché à cause de ce caractère un peu trop divisif qui a fait que l'Amérique a vécu quand même 4 ans de stress et de division sous Donald Trump. Alors, Pence aura des problèmes parce qu'il faudra qu'il explique que ce Donald Trump qu'il accuse aujourd'hui comme irresponsable, il l'a quand même servi pendant 4 ans. Il faudra, ça sera très difficile pour lui de pouvoir faire la différence entre lui et Donald Trump qu'il a servi avec tous les défauts qu'il décrit. Alors le seul candidat, à mon avis, que je trouve un peu sérieux et acceptable, c'est peut-être Chris Christie du New Jersey, parce que c'est un républicain qui dit plus ou moins les mêmes choses, mais de manière modérée, de manière cohérente, de manière intelligente. DeSantis me semble être plus le candidat que la presse a fabriqué. Je ne suis pas sûr qu'il puisse aller très loin quand les primaires vont se passer. Donc oui, Donald Trump a encore toutes les chances au niveau des primaires républicaines, mais je ne suis pas sûr qu'il puisse se faire réélire à l'élection générale.
Jean-Claude Nzamba, une élection générale qui pourrait donc bénéficier au camp démocrate. Les candidats là-bas ne se bousculent pas trop, évidemment. Joe Biden est candidat à sa propre succession, mais il y a déjà quand même deux candidats qui se sont prononcés. Il s'agit de Robert Francis Kennedy Jr. et de Marianne Deborah Williamson. Ce ne sont pas des personnalités vraiment connues dans le paysage politique. Vous pensez que c'est un boulevard pour Joe Biden, pour ce qui est des primaires démocrates, ne serait-ce que?
Ben, je ne dirais pas ça, parce que aujourd'hui, quand on écoute ce qu'a dit Madame Nikki Haley, qui a mis en avant les âges de M. Trump et de M. Biden, et l'Amérique est un peu en train de regarder avec certains, avec stupeur un peu, ce qui s'est passé il y a une semaine, quand M. Biden, lors de remise de diplôme, est tombé. Et donc cette peur de se demander est-ce que M. Biden serait en mesure de faire un deuxième mandat et même de le finir, et dans la tête de beaucoup d'Américains. Donc je pense que ce soit Robert Francis ou Madame Deborah, c'est peut-être en se disant que quelque chose pourrait se passer où M. Biden ne pourra pas faire un deuxième mandat. Et vous savez qu'aux États-Unis, une campagne électorale, ce n'est pas une affaire d'un mois ou de 2 mois, c'est plusieurs longs mois. Et M. Biden qui en même temps aux affaires, est-ce qu'il pourra en même temps gérer l'Amérique et également gérer une campagne électorale? Ce sont des questions quand même assez importantes et qui sont dans la tête de beaucoup de personnes. Donc je ne dirais pas que pour M. Biden, ce serait nécessairement un couloir ouvert. On espère pour sa santé et qu'il se porte bien et qu'il puisse pouvoir continuer. Donc vraiment, il n'y a que l'avenir qui nous dira, mais je pense que du côté républicain, c'est une belle discussion qui commence, et pour moi vraiment M. Pence peut être un candidat favori comme Nikki Haley. La seule chose avec M. Pence, c'est que la base de M. Trump, si M. Trump qui a quand même une très bonne base dit que M. Pence est un traître, n'allez pas voter pour lui, bah, déjà ça va effriter une partie de cette base qui aurait pu servir à M. Pence.
Jean-François Sedneck, puisque Jean-Claude Nzamba parlait de l'âge, on avait prévu d'évoquer cette question et je vous la pose. Est-ce que cette question de l'âge des candidats à la présidentielle est aussi cruciale que ça? C'est une question qui revient toujours lorsqu'on parle notamment de Joe Biden. Est-ce que c'est un problème ici aux États-Unis?
Non, c'est peut-être pas un aussi gros problème qu'on pourrait croire, mais c'est quand même un problème. Il est certain que
Jean-Claude a parfaitement raison, et il y a beaucoup d'Américains qui se posent la question, est-ce que Biden, que beaucoup de gens apprécient ou apprécieraient mieux que Trump, est-ce qu'il aurait la capacité de tenir le coup, de faire à la fois la politique absolument difficile américaine en ce moment et la course à la Maison-Blanche. Et il est certain que c'est un gros problème. Mais du côté démocrate, il n'y a personne vraiment qui peut remplacer Biden. Alors ça, c'est un gros problème pour eux. Je pense que d'un autre côté, ça rendrait la vie beaucoup plus facile aux candidats républicains plutôt centristes. Donc, pas du tout à Trump, pas du tout à Pence, pas du tout à DeSantis, mais peut-être aux autres, soit à Tim Scott, qui me paraît avoir quand même pas mal de chance, et Nikki Haley, par exemple. Ça rendrait des candidats républicains centristes beaucoup plus éligibles, si vous voulez, cette question d'âge.
On revient à vous dans un instant, le temps pour nous de prendre une petite pause.
L'Amérique et vous, en direct de Washington.
L'Amérique et vous, ce soir nous parlons de la présidentielle ici aux États-Unis, notamment des primaires qui ont commencé aussi bien du côté républicain que chez les démocrates. Une élection présidentielle à laquelle participeront de nombreux Africains d'origine ou plutôt de nombreux Américains d'origine africaine. Daniel Mingara, parlons un peu de l'implication des Américains dont d'origine africaine dans la politique ici aux États-Unis. Certains réussissent à émerger, comme on l'a vu récemment, Yemi Emolade. Il est originaire du Nigeria, récemment élu maire de Colorado Springs. C'est la seconde ville de l'État du Colorado. Qu'est-ce qu'on peut en dire?
Non, je crois que c'est là une des questions les plus fondamentales. Hein. C'est-à-dire que l'immigration africaine aux États-Unis a connu quand même, on va dire, une évolution positive, hein, parce que on voit de plus en plus d'implications d'Africains, non seulement dans les affaires, hein, mais aussi dans la politique américaine. La question de cette intégration et puis de cette évolution politique a tendance à montrer qu'il est possible pour ces Africains qui migrent ici de s'intégrer et puis de jouer un rôle politique qui peut à la fois améliorer l'image, hein, donc des Africains, hein, aux États-Unis, parce que c'est important d'en parler, hein, parce que quand on compare l'image des Africains avec celle des Asiatiques, hein, on voit généralement que, de manière générale, les Asiatiques s'en tirent un peu plus mieux dans ce pays, hein, surtout dans les domaines de la technologie, des emplois dans des grandes sociétés, et les Africains sont encore un peu dans cette étape évolutive. Mais des cas comme celui que vous évoquez vont généralement commencer à montrer qu'il est aussi possible pour les Africains de percer dans cette société et surtout de jouer des rôles importants. Hein. Regardez un peu ce qui se passe avec la communauté haïtienne. Hein. Ils ont quand même aujourd'hui une secrétaire à la communication, hein, donc au niveau de la Maison Blanche. Et je crois que ce sont ces évolutions-là que nous espérons tous et nous espérons que les Africains se montreront un peu plus visibles à des niveaux un peu plus élevés et surtout qu'ils se montrent aussi capables de diligenter des politiques vers l'Afrique qui peuvent aider justement à améliorer les rapports Afrique-Amérique, mais dans un sens qui bénéficie véritablement à l'Afrique.
Vous parlez d'amélioration, vous parlez d'Afrique. Jean-Claude Nzamba, la date de la présidentielle ici aux États-Unis est connue des années à l'avance. Ce n'est pas toujours le cas en Afrique. Le dernier exemple en date, c'est le Gabon, où on a appris cette semaine la date de la prochaine présidentielle. Elle vient seulement d'être révélée. Est-ce que ceci ne pénalise pas certains candidats dans leur préparation et comment améliorer les choses pour aller dans le sens de l'évolution, comme le disait Daniel tout à l'heure? Jean-Claude?
C'est une très bonne question. Je pense que les États-Unis, avec à peu près 200 ans et plus d'expérience démocratique, ont mis l'accent sur des institutions fortes.
Et c'est ce que M. Obama, lors de son séjour au Ghana, en Afrique, avait mentionné. Nous nous trouvons en Afrique avec des situations où nous n'avons pas des institutions fortes. Et quand on regarde, un peu dans les différents pays africains, on se rend compte qu'au fur et à mesure, on commence à aller vers une normalisation de textes, une normalisation des élections, mais il y a beaucoup à faire. Et je pense qu'il serait important que les différents décideurs de nos pays africains puissent être en mesure, que ce soit les différentes classes politiques, le gouvernement, les sénats, les législateurs, s'assoient pour essayer de prendre exemple sur ces grandes nations qui, à l'avance, vraiment mettent en avant des dates électorales, que ce soit sur le côté des présidentielles, mais également des législatives.
Alors, Jean-François Sesnec, évidemment, au niveau des États-Unis, une présidentielle, c'est des thèmes qui intéressent les électeurs. Pour vous, quels pourraient être les thèmes qui vont dominer la campagne pour cette présidentielle de 2024, aussi bien côté républicain que chez les démocrates?
Écoutez, je pense que les thèmes sont assez définis par le Parti républicain en ce moment, parce que c'est eux qui font qui donnent les points les plus difficiles, si vous voulez, les plus controversés. Mais je pense que ce qu'on appelle ici la guerre des cultures, c'est-à-dire la guerre des cultures sociales, en fait, sur la façon de traiter les personnes gays, la façon de parler des choses, ce qu'on appelle ici le parler woke, hein, n'est-ce pas? Ça va vraiment être très important. Le gouverneur DeSantis est très fier du fait qu'il soit très conservateur dans ce domaine-là. Et je pense que les démocrates vont se battre beaucoup contre ça. Le déficit budgétaire, qui est énorme, bien sûr, va être très important, parce que les républicains veulent toujours théoriquement balancer les livres, mais seulement ce matin, ils ont introduit tout un tas de lois pour diminuer les impôts, alors que les impôts sont déjà assez faibles. Et je pense que ça va être les points les plus importants dans la campagne électorale. C'est des points qui vont avantager plutôt, à mon avis, les républicains, les démocrates qui vont se défendre plutôt que de passer à l'attaque là-dessus.
Daniel Mingara, une campagne, surtout présidentielle, ça coûte beaucoup d'argent, aussi bien d'ailleurs ici aux États-Unis qu'ailleurs, mais souvent en Afrique, tous les candidats ne sont pas logés à la même enseigne. Comment régler la question du financement des campagnes en Afrique, à votre avis?
Oui, ça c'est en réalité une des questions les plus fondamentales, parce que moi je viens d'un pays qu'on appelle le Gabon, où le problème se pose avec acuité. Ce qu'on voit, c'est que le régime au pouvoir a tendance à presque jouir du monopole, non seulement de l'accès aux médias, mais aussi d'utiliser en réalité les caisses de l'État pour financer sa campagne. Et c'est une situation qu'on retrouve un peu partout, parce que justement, comme l'a dit un confrère tout à l'heure, nous manquons encore de ces institutions fortes qui sont capables d'égaliser les chances de chacun des candidats. Donc, qu'est-ce que ça demande? Ben, c'est simple, il faut que nous puissions, en Afrique, évoluer vers des réformes constitutionnelles qui vont un peu mieux encadrer le financement des campagnes. Je veux, pour exemple, les États-Unis ou même la France, où quand même il existe la possibilité de donner le choix aux candidats. Un financement public, donc de l'argent public qui vous interdit de faire n'importe quoi, ou financement par les privés. Et au moins créer ce type d'aménagement dans nos systèmes où un candidat peut choisir le financement public, et à ce moment recevoir l'argent de l'État, le soutien de l'État pour sa campagne. Je pense que ça peut déjà commencer à améliorer la situation des candidatures. Mais je crois que le problème en Afrique n'est pas que celui-là, parce que la question simplement de l'égalité des chances du financement n'est pas en réalité ce qui se pose généralement. Ce qui se pose, c'est plutôt le problème de la transparence des institutions, des élections, et donc les mécanismes permettant, par exemple, à un candidat de l'opposition de gagner. Ça, on n'a pas souvent ça. On peut voir des pays comme le Gabon, le Cameroun, la Guinée équatoriale, le Congo-Brazzaville, où il est pratiquement impossible aujourd'hui d'imaginer que même avec du financement, un candidat de l'opposition puisse gagner, parce que les institutions sont tellement bloquées autour de la nécessité de maintenir le régime au pouvoir, que le régime en exercice au pouvoir, qu'en réalité, ces élections deviennent simplement des cinémas politiques où il n'y a aucune chance d'alternance politique. Voilà, en fait, à mon avis, le vrai problème. Ce n'est pas toujours un problème d'argent, c'est plus un problème de transparence électorale.
Et à propos, justement, de transparence électorale, je reviendrai sur cette question tout à l'heure avec Jean-François Seznec. Mais déjà, Jean-Claude Nzamba, la corruption des électeurs avec des casiers de bière, des sacs de riz, des boîtes de sardines et même des poteaux électriques, des routes qu'on refait à la va-vite. C'est un peu le phénomène qu'on observe dans beaucoup de pays en Afrique à l'approche des élections. À terme, c'est plutôt la politique du ventre et non celle des idées et autres programmes qui prévaut. Comment renverser cette tendance?
Je pense que c'est quelque chose qui est remarqué généralement dans, comme vous dites, hein, dans nos pays africains. Parce qu'il y a deux choses. Je pense, d'un côté, il y a les personnes qui acceptent d'être appelées à aller voter parce qu'on leur a donné un casier de bière en plus. Mais je ne pense pas que ce soit nécessairement à 100%. Il y a des personnes qui ne répondent pas à cette logique et qui essaient d'emmener un débat constructif. Ce que nous avons pu voir dans certains pays africains, c'est qu'à l'orée de certaines élections, il y a des campagnes, il y a des gens qui vont à l'intérieur du pays, qui mènent des causeries dans les différents quartiers pour essayer de faire comprendre, un, d'abord, ce que eux, en termes de candidats, soit une élection présidentielle ou des législatives, ce qu'ils peuvent apporter de différent. Mais il est aussi important que les personnes qui sont appelées à voter puissent s'éduquer sur les programmes de ces différents candidats et poser des questions sérieuses et s'impliquer quelque part, quand c'est possible, au niveau de savoir que, par exemple, un député représente une circonscription. Et ce député va vous représenter, et ce député doit être en mesure de présenter vos besoins et non d'attendre à ce qu'on arrive à une échéance électorale pour pouvoir dire, bon oui, on avait entendu que vous aurez besoin de ceci, de cela, et on vous l'emmène. Donc, voilà. Il est important qu'il y ait les personnes qui vont voter s'éduquent et essaient de s'imprégner de certaines du droit, en fait, et du devoir qu'ils ont, un, déjà, voilà, à se faire enregistrer, et puis, deuxièmement, de pousser les personnes qu'ils ont élues à faire le travail qu'ils ont dit qu'ils allaient faire.
Voilà. On tire, malheureusement, à la fin de cette émission, Jean-François Seznec. Donald Trump n'a toujours pas reconnu qu'il a perdu la dernière élection présidentielle. Quel a été l'impact de son refus sur le processus démocratique américain et même sur la crédibilité des élections aux États-Unis? On a quelque chose comme 45 secondes pour cela.
Bah écoutez, c'est toujours très grave parce que ça veut dire qu'il y a une perte du sentiment démocratique dans le pays et que beaucoup de gens pensent que même si le nombre de votes a été supérieur pour Biden, le fait est c'est que la gauche a volé un petit peu les élections en présentant des fausses conditions sociales, etc., qui ont fait beaucoup de mal à Trump. Et ça, enfin, c'est un peu la vue de l'extrême droite, de la droite, et surtout de l'extrême droite. Donc, ça fait beaucoup de mal parce que maintenant, de toute façon, quoi qu'il se passe pendant les élections, tout le monde va dire « Ah, ben moi j'ai perdu » et l'autre n'a pas vraiment gagné. Et donc, ça crée des problèmes. On voit ça dans beaucoup de pays maintenant. C'est très dommage pour le système de démocratie.
Voilà, je vais donner le mot de la fin à Daniel Mengara, compte tenu du temps. Votre mot de la fin, l'avenir de cette présidentielle, comment vous la voyez? Où vous le voyez?
Ben, si Donald Trump se présente, les démocrates gagnent. Voilà. Enfin, si Donald Trump gagne les primaires républicaines, je pense que les démocrates gagneront même avec Biden.
Voilà, et c'est avec ces termes qu'on met donc fin à cette émission que vous pourrez réécouter sur notre site internet voafrique.com. Présentation John Lyndon, production Joselle Maurice. Merci à tous nos invités pour leur disponibilité et à vous pour avoir suivi. On reste en contact sur Facebook et sur nos réseaux sociaux où vous pouvez vous informer sur l'actualité 24 heures sur 24. Au revoir. Et l'information, c'est juste après avec Eric Manirakiza. Bonsoir.